Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ça ramène la charrue avant les pneus.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
On venait à Rennes avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé au coup d'envoi. Ça a été fait.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Et merci de passer cette soirée en notre compagnie. Stéphane Guy, Daniel Riolo en direct jusqu'à minuit sur RMC à la radio, direct sur YouTube en vidéo. @after-foot dans cette deuxième heure. Les Jeux Olympiques, la vie de Stéphane dans quelques minutes. Les clubs français doivent libérer leurs joueurs pour les Jeux. 32-16 si vous voulez en débattre. On sera également dans une petite demi-heure avec Yoann Lemaire pour revenir sur la lutte contre les discriminations en Ligue 1, lutte contre le racisme ce week-end, lutte contre l'homophobie. Il nous expliquera les changements par rapport à l'année dernière et notamment la disparition du fameux maillot arc-en-ciel remplacé par des badges. On en parle tout à l'heure et avec vous tous au 32-16. Mais d'abord, l'actu du jour, on a commencé avec cette interview du patron de la DNCG aujourd'hui dans l'équipe. On parlait donc de Jean-Marc Mikeller qui a fait ce ratio masse salariale point récolté dans les compétitions européennes.
C'est masse salariale, c'est oui. Pas budget.
Non, masse salariale, absolument.
C'est ça qui est important, évidemment. Même si les charges, évidemment, on le répète à chaque fois, ne sont pas
plus importantes
les mêmes
chez nous
dans notre pays que dans les autres pays.
Et comme promis, Daniel a donné son avis, la parole te revient, Stéphane, notamment. Je ne sais pas sur ce calcul ou si tu as retenu autre chose d'ailleurs.
Non, mais je pense que ces chiffres globaux sont quand même faussés par le Paris Saint-Germain, qui, en termes de masse salariale point acquis, explose tous les compteurs, évidemment. Mais moi, je suis très sensible à ce critère-là, et c'est pour ça que j'ai longtemps défendu l'idée que le coach le plus performant d'Europe, c'était Arsène Wenger, parce que je pense qu'en termes de euros dépensés, résultats obtenus, c'était sans doute le plus performant, et que c'est finalement le critère essentiel à mes yeux en tous les cas.
Puis après,
c'est ça que je trouve exceptionnel, ouais. Ce que fait Lens, par exemple, depuis 2-3 ans en France.
Et puis je sais pas si vous avez retenu d'autres choses. On peut lire aussi qu'il valide l'accord avec CVC, notamment pour les clubs français dans cette interview.
L'interview est commanditée par le président de la LFP, qui en plus l'envoie répondre aux journalistes amis de la LFP. Et pour ce qui est de cet accord CVC, il ne fait que répéter ce qu'on sait, c'est que effectivement, si à ce moment-là il n'y a pas cette oseille qui rentre, les clubs sont, en tout cas certains, auraient pu être en faillite. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que tout est net dans cet accord. On en a parlé énormément, ça fait plus d'un an qu'on parle de ça dans l'after. J'ai vu aujourd'hui, on l'avait déjà pressenti la semaine dernière, le Sénat a ouvert une enquête, le parquet national financier est dessus. Ça y est, maintenant c'est officiel.
Depuis aujourd'hui.
La semaine dernière, quand on en a parlé, on disait peut-être dans une semaine, ça va arriver, c'est arrivé. Donc là, on a quand même une véritable enquête. Et la grande question, ça va être, est-ce qu'il y a eu des malversations dans cet accord ou des problèmes quelque part
Et puis, est-ce qu'on pouvait vendre les droits du foot français
Absolument.
À vie.
Absolument.
Et bien sûr, vous le savez, dans l'after, vous serez les premiers au courant, les mieux informés.
Qu'on a alerté là-dessus, nous ici. Voir qu'aujourd'hui, ces enquêtes existent réellement. Ça confirme un peu notre travail.
Non, après, ce qu'il explique aussi en creux, enfin pas en creux, là, il le dit clairement, c'est que effectivement l'argent est pas toujours bien utilisé et que lorsqu'on met son interview au regard du formidable numéro que tous les ans l'équipe sort sur les salaires de la Ligue 1, effectivement, quand on voit qu'à Marseille, Correa est l'un des plus gros salaires et qu'il ne joue pas. On se dit qu'effectivement il y a des marges de progression colossales. Puis on peut aussi le prendre pour diversifier les points de vue avec Kurzawa ou qui est-ce qui est au PSG aussi comme ça qui est
principalement Kurzawa, ouais. L'homme qui touche un salaire pharaonique, voilà. Et qui effectivement n'existe plus, ne joue jamais.
Mais par contre du coup
c'est même pas qu'il joue pas, il est même pas plus dans l'équipe, n'existe plus.
Excellente nouvelle puisque l'année prochaine le coût du point européen va baisser puisque avec le départ de Mbappé forcément. Mécaniquement, foot français va pas
passer. Ils sont capables de nous inventer bien des choses pour compenser le départ de Mbappé. Ouais, attention à ce que tu dis.
C'est vrai. Je m'avance un peu, pardon. Une déclaration qui t'a fait réagir, je le sais, Daniel, de Samir Nasri, qui s'est exprimé concernant le ramadan et qui a dit ceci. Pourquoi les entraîneurs devraient savoir si les joueurs font le ramadan? À mon époque, on ne me posait pas la question de savoir tu fais le ramadan ou non. On est dans un pays laïque, normalement la religion doit rester dans la sphère privée. Est-ce que l'entraîneur va voir les catholiques en leur demandant s'ils font le carême? Pourquoi cette question du ramadan ne se posait pas il y a 20 ans? Tu sais que c'est la période du ramadan, tu sais à peu près quels sont les joueurs de ton équipe qui sont musulmans, tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c'est tout. Pourquoi tu vas lui demander s'il fait le ramadan? Parce qu'il fait, s'il fait le ramadan, tu vas le regarder d'un œil différent. Ça ne doit pas exister de demander à ces joueurs de ne pas jeûner.
Moi, j'ai trouvé que c'était très juste comme intervention. Effectivement, c'est un petit peu ce qu'on disait quand on en a parlé il y a une ou deux semaines. Le mec qui le fait, il doit être libre de le faire. Et l'entraîneur derrière, moi je vais même un petit peu plus loin. Parce que moi je disais, dans les clubs, si on veut adapter pour que les joueurs se sentent à l'aise, aucun problème, c'est une gestion privée dans un club. Moi je trouve qu'au contraire, il faut que tout le monde soit heureux. Et si le mec est heureux, il faut l'aider. Je trouve que l'intervention de Nasri, elle est juste. Et quelque part, elle va pas du tout dans le même sens que l'intervention d'Habib Bey sur le sujet. Habib Bey, qui, tout le monde le sait, hein, est un ami. Néanmoins, on a le droit de pas être d'accord avec des gens qu'on estime beaucoup. J'ai pas du tout compris sa sortie. Mais pas du tout, très en colère, très énervé.
Il y a une chasse d'après match là en conf.
Je sais plus à quel moment c'était, mais je trouve qu'il est parti très vite sur chaque année il y a la polémique, il y a la chasse aux musulmans et tout. Alors que, mais pas du tout, du tout, du tout. Cette année, il y a quasiment eu, justement par rapport aux autres années, zéro polémique, si ce n'est autour
Diawara,
de l'histoire des Bleus.
Le français
U19. On a le lendemain immédiatement corrigé ici dans l'émission. On a dit réellement tout ce qui s'était passé. Tout est rentré dans l'ordre en deux minutes. Il n'y a pas eu le moindre problème. Il n'y a pas eu la moindre polémique, justement, cette année. J'ai trouvé qu'elle était démesurée, la sortie d'Habib Bey. Il n'y a pas du tout eu de chasse aux musulmans. Il n'y a rien eu de ça. En plus, c'est pas son genre, Habib, être comme ça. J'ai trouvé qu'il a un peu sombré dans une victimisation un peu inutile. J'ai pas aimé. Je suis désolé de le dire là, parce que je pourrais très bien lui dire en privé, puisqu'on s'écrit et on peut le faire. J'espère qu'il le prendra pas mal. Mais vraiment, c'est, voilà. Ouais. En tout cas, la sortie de Nasri, très juste sur le sujet, j'ai beaucoup aimé. Non,
mais il remet un peu l'église au milieu du village, je peux dire, sur le sujet. Mais surtout, se poser toujours la question de savoir quand une question survient dans l'espace public, à qui ça profite. Pourquoi effectivement une question qui se posait pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans se pose aujourd'hui et à qui ça a intérêt?
Parce que la société a changé. Non, mais c'est pas une question d'intérêt, Stéphane. C'est juste que la société a changé, que notre société, on le sait, c'est pas le scoop de l'année. Et évolue vers plus de communautarisme et de revendications identitaires. On est sur une sorte de modèle américain maintenant qui pénètre la France et qui fait beaucoup de mal d'ailleurs à notre pays, ce modèle-là.
Mais c'est exactement l'inverse que défend Nasri.
Oui, voilà. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé son intervention. Aussi. Qu'on n'emmerde personne, on n'est pas besoin d'en faire des tonnes là-dessus. Ceux qui peuvent le gérer, qui ont envie de les gérer, le gèrent. Et puis j'imagine qu'il doit y avoir des entraîneurs et des clubs, parce que ça on le dit pas, mais on le sait bien que ça existe. Au début de la saison, quand tu recrutes, tu constitues une équipe, probablement tu dois dire parce que Habib Bey mettait ça en avant. D'ailleurs, il y a un truc qui était gênant dans ce qu'il disait, parce que d'un côté, il faut pas savoir, il faut pas compter, il faut pas discriminer pour savoir si t'en as pas, comment tu vas faire, comment tu vas t'organiser, machin. Et lui, justement, il mettait en avant le nombre. Oui. Il disait moi j'en ai 13, j'en ai 14, donc ceci, cela, ok.
Je crois qu'il disait à Bib qu'il y en avait deux qui faisaient le carême
ou cinq, je crois qu'il dit.
Voilà. Donc si tu fais dans un sens un comptage,
le carême a rien à voir avec le ramadan. Voilà. Faut aussi
tu dois pas faire un comptage dans un sens et pas dans l'autre dans ce cas-là. Qu'un entraîneur avec son staff dise peut-être que s'il y en a 4, 5, 6, 7, 8, il va falloir qu'on s'adapte dans la façon dont on s'entraînera dans cette période-là. Si le club le fait, qu'il le fasse, il y a un problème. Qui va venir leur dire quoi que ce soit? C'est tout. Mais voilà.
Au moins, chacun, en plus, non seulement vit sa religion comme il l'entend, et supporte les effets d'un jeûne ou d'un ramadan, d'un jeûne en l'espèce, mais différemment. Je veux dire, moi, j'ai vu, par exemple, un magnifique match de foot samedi à Alençon. J'ai vu un attaquant formidable marquer 3 buts. et qui extraordinaire, tous plus beaux les uns que les autres, exceptionnels. Et qui était
en période de Ramadan.
Voilà. Ah oui, il y en a qui ça donne même une force un peu mentale supplémentaire. Ouais. Mais
parce que dit Nasri aussi, Benzema n'était jamais aussi fort.
Effectivement, dans ce moment-là. Ouais. Après, j'imagine qu'il y en a physiologiquement, ils doivent pas le supporter. Oui. Dans ce cas-là, l'entraîneur doit faire un choix et qu'on vienne pas dire derrière, oh, tu l'as écarté parce qu'il fait le Ramadan. Ben non, ça c'est stupide. Il faut pas dire ça parce que là, on tombe dans une victimisation. C'est peut-être aussi qu'il y a des corps.
Non, c'est performance. De toute façon, le sport, c'est le seul critère qui vaille, c'est celui-là.
Dans l'actu du jour aujourd'hui, je voulais aussi vous raconter une histoire d'ultimatum, toute ressemblance avec une histoire blablabla serait fortuite. L'agent d'Alfonso Davies, Bayern Munich, a parlé à Bild aujourd'hui pour dénoncer l'ultimatum du Bayern à son joueur. Il est sous contrat jusqu'en 2025, Alfonso Davies, et le Bayern a donné 15 jours à Davies pour se prononcer, prolongation ou pas. Il dit, je cite l'agent aujourd'hui, le Bayern avait dit, nous avons fait une offre très concrète et valorisante à Alfonso. À un moment donné, il faut dire oui ou non. Et donc le Bayern a demandé de répondre sous 15 jours et qu'il n'y aurait pas d'autre offre à la hausse. Réponse donc aujourd'hui. Ce n'est pas juste qu'Alfonso soit maintenant attaqué. Il y a un an, nous étions sur le point de trouver un accord, puis toute la direction a été remplacée. Nous n'avons eu ensuite aucune nouvelle pendant 7 mois, alors que j'ai moi-même essayé de prendre contact avec le club. Maintenant, on nous donne un ultimatum et on nous demande de réagir dans les 2 semaines parce que l'association est sous pression et qu'elle a mis du temps à se restructurer au niveau de la direction. Ce n'est pas juste.
Alors, que ce cas précis puisse poser problème, j'entends l'argument de l'agent qui dit la direction n'était pas la même, donc il nous faut peut-être un petit peu plus de temps. Pourquoi pas ? Le club ira peut-être vers lui en lui disant, on te donne 2 semaines de plus parce qu'effectivement, les hommes avec qui tu avais entamé les discussions ne sont plus là. Mais sur le principe, moi je trouve ça très bien. Et c'est exactement ce que n'a pas fait le PSG, et c'est exactement ce qu'aurait dû faire le PSG avec Mbappé. Quand tu as un joueur important dont tu attends la décision pour une prolongation, ceci, cela, et que tu dois te réorganiser, oui, c'est pour ça que...
C'est pas un peu l'idée du loft cet été, là?
C'est ce qu'a fait le PSG avec Mbappé. Mbappé leur a répondu, je prolonge pas.
Non. C'est avant qu'il fallait le faire. C'est avant qu'il fallait lui mettre l'ultimatum. C'est pas au dernier moment quand t'es dans la dernière saison. Lui, c'est 2025.
Oui.
Donc tu lui dis, dis-nous. Un an avant, dis-nous. Parce que sinon, nous, on doit se réorganiser. Daniel, c'est là que tu dois faire.
La liberté d'Alfonso Davies, ultimatum ou pas de son club, il est sous contrat. Le Bayern a signé ce contrat, doit l'assumer. C'est-à-dire qu'il doit être payé et il doit jouer et être traité comme un autre jusqu'au terme de son contrat, y compris s'il veut pas prolonger.
Évidemment, il pourra faire ça. Mais au moins, on lui aura fait comprendre qu'on attend une décision de sa part. Et que s'il a des offres, parce que c'est toujours la même histoire.
Je pense quand même que Paris a quand même demandé à Mbappé, est-ce que tu vas prolonger ou pas, puisqu'il a envoyé lui-même le courrier un an avant.
Oui, sauf qu'il s'était mis dans la merde en refusant l'offre quand elle existait. Donc là, la différence avec Alfonso Davies, c'est qu'en faisant ça, si jamais il y a une offre au mois de mai ou au mois de juin, ils peuvent aller le voir et dire, Coco, là, elle est là, l'offre. Donc tu vas partir, mon grand. Parce qu'on va te vendre.
Ouais, mais la liberté d'Alfonso Davies, ce sera de dire, moi, votre offre, je la veux pas.
Exactement.
Je resterai jusqu'à la fin de mon contrat. Terminé.
Il pourra faire ça, mais au moins le club aura agi. Ouais, ouais. Alors que le PSG a fait le contraire. Ils ont dit, on a rien à foutre de l'offre. On la prend pas. C'est là qu'ils avaient fait l'erreur.
Ouais.
Qu'ils ont traîné un an après. Et c'est un an après qu'ils ont voulu faire les cadors, machin, l'offre et compagnie. Le Bayern ne fait pas ça.
On verra. La suite, ça va être intéressant de voir la suite.
Oui, le pouvoir du joueur, c'est. Oui, mais là encore, si Alfonso Davies, à partir du moment où on lui dit, écoute, nous, si tu prolonges pas, on va peut-être prendre un autre arrière-gauche. Ou
bien sûr.
S'il est intelligent, il trouvera une issue, il y aura une offre, il partira, il négociera un salaire dans un autre club. Hein? L'idée, c'est justement d'éviter le bras de fer et la situation dans laquelle le PSG s'est mis du Bayern en refusant la vente.
Alors, juste avant, je conclue sur Alfonso Davies pour dire que c'est, selon certaines sources en Espagne, des contacts concrets auraient déjà été noués avec le Real Madrid pour Alfonso Davies.
Oui, voilà.
Ouais, Stéphane.
Et là, je lis sur l'AFP, là, je crois que ça va être l'AFP.
Qu'est-ce qui se passe à Alençon?
Non, pas seulement, même si ça m'intéresse beaucoup. Je lis que Ulionès dit que Xavi Alonso ne sera probablement pas le prochain entraîneur du Bayern.
Voilà. En ce moment, la presse allemande rêve.
C'est une information forte, puisque effectivement, c'était quand même une.
Rêve de Zidane.
Une des tendances.
Zidane Ribéry.
Absolument.
Le fantasme du Bayern.
On peut en dire un mot.
Le ticket.
C'est également le journal Bild, d'ailleurs, qui a bien bossé aujourd'hui, qui parle d'un ticket un peu surprenant, mais qui en parle aujourd'hui. Zidane Ribéry.
Je vais juste le dire, là, tu vois, t'as pas entendu?
Ouais, non, parce qu'en fait, là, je vais donner un complément. T'as dit Ribéry dans ton truc?
Bien sûr. Ouais.
Ok. Moi, je... Parce que t'as le casque, c'est trop fort.
Oui, hein, je pense que c'est ça.
T'as pas entendu.
Écoute, j'ai fait une micro sieste. Une petite 23h18, la célèbre. Non, effectivement, les dirigeants du Bayern auraient un œil sur Zizou. Non, mais en fait, j'ai rien de plus à ajouter.
C'est des grands. Non, mais c'est parce
ouais,
que.
Oui, évidemment, c'est... Ribéry qui vit à Munich serait très intéressé.
C'est des grands amis et ils ont le même agent. Donc ça, quand même, ça c'est pas complètement, ça tombe pas du ciel, quoi.
Ouais. Mais du mal à imaginer. Enfin, moi, j'ai du mal à voir Zizou à Munich. Mais...
Ah non. Justement, ça fait partie des clubs bien, comment dire, cadrés. Qui ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît beaucoup. Et bien, attention, la Bavière, c'est une région assez extraordinaire où je suis sûr qu'il se sentira très bien.
Ça change. Oui, ça change de Madrid, quand même. Non,
il y avait quand même.
Ça change de Madrid.
Ça change de Madrid, mais je t'assure que c'est pas comme s'il va à Hambourg ou à Manchester ou puisqu'on sait que le cadre de vie compte beaucoup. Il a bien raison. Il va en famille. Je pense que Munich est une ville, au contraire, qui peut lui aller très très bien.
Il y a quoi à faire à Munich? Plein de choses?
Non, mais c'est bien. Tu connais pas Munich?
Non, je connais pas Munich.
C'est une chouette ville et la Bavière est une très belle région. D'accord. Et Alfonso Davies.
Le Bayern Munich, c'est quand même pas. C'est pas l'US Alençon pour le coup, quoi. C'est un club.
Un peu de respect
quand
pour Alençon.
Tu dois avoir.
Tu manques de respect pour Alençon, Stéphane, ce soir.
Non, mais tu dois quand même avoir. Je sais pas si t'es entraîneur, le Bayern Munich, tu écoutes quand même, un minimum.
Bien sûr. Et puis à un moment, il va falloir quand même qu'ils se remettent à bosser. J'imagine qu'il a envie de bosser. Et nous, on a envie de le revoir sur un banc. Sinon, pendant que tu parlais et que tu ne m'écoutais pas, des gens très importants écoutent l'after. Évidemment, tout le monde le sait. Et on me dit, Alfonso Davies est déjà au Real.
Tiens, une info à donner, apparemment, Alfonso Davies est déjà au Real.
Voilà.
Ok, très bien.
Et comme en général, le Bayern Munich et le Real Madrid se passent plutôt bien entre les deux clubs, si c'est le cas, ça devrait effectivement se terminer par un transfert cet été.
Et deux petites infos pour terminer, parce qu'on parle transfert, sachez que Manchester City va recruter un joueur de 14 ans, selon The Athletic, un joueur qui joue actuellement au Philadelphia Union. Il s'appelle Kavan Sullivan, donc 14 ans. Et il est en train, le joueur, de finaliser les derniers détails pour paraffer son contrat.
Mais c'est quoi comme type de contrat?
Contrat pro, mais il n'arriverait
comme
seulement.
Ça, contrat pro, à 14 ans, t'as pas le droit d'un signe.
Non, mais il arriverait qu'à 18 ans. En fait.
Non, il va signer la filiale américaine de City, j'imagine.
Ouais, voilà.
Alors, j'ai pas les détails.
Ils vont s'occuper de sa formation.
New York City.
Mais ils vont s'occuper de sa fin de formation.
Voilà. Il devrait rester à Philadelphie jusqu'à ses 18 ans. Hein? En compensation en faveur du club américain. Milieu de terrain, 14 ans. Pépite annoncée du foot mondial.
Une petite pépite à 14 ans, moi je sais pas trop ce que ça veut dire.
Expected
crack. Ça me rappelle celui qui est aujourd'hui capitaine à Arsenal, qui est un joueur excellent, vraiment, mais qui a connu beaucoup, beaucoup de galères parce que c'était une pépite bien trop jeune. Et beaucoup ne s'en remettent pas, lui s'en est remis. Et donc, ce genre d'enflammadaire, plus globalement sur les jeunes, quand tu vois Yamal, ce qu'il fait déjà à son âge, mais en fait, on sait pas de quoi ça présage. En fait. Comment le corps peut supporter ça en démarrant de plus en plus tôt? C'est la même chose pour Warren. Ouais, bon, à partir du moment si physiologiquement mais ils Daniel, sont finis et ils peuvent jouer, qu'ils jouent, mais c'est toujours cracks, des risques énormes.
Les cracks du foot à 14 ans, tous étaient déjà identifiés. Mbappé à 14 ans, tout le monde avait déjà Mbappé à la bouche.
Mais tu sais combien t'en as identifié et qui sont pas devenus forts
bien
après.
Bien sûr.
Et juste très rapidement vous dire que c'est une bonne nouvelle et je voulais la donner. Albert Ellis est rentré chez lui, souvenez-vous, grave traumatisme crânien le 24 février.
Bah, tant mieux
lors d'un match, absolument, il avait été placé dans un coma artificiel. Et bien pour la première fois, il est rentré à son domicile. Selon les informations de France Bleu, Gironde, il commence à retrouver ses moyens. Bien évidemment, pas de diagnostic définitif sur les séquelles. Mais pour l'instant, voilà, ça, tout semble aller mieux pour Albert Ellis. 23h22, petite pause et on se retrouve en direct sur RMC.
Bonsoir,
mais ce soir, c'est pas Jerry et compagnie, vous êtes en train de braquer le coffre.
Ça tombe!
J'ai plus la petite alerte, si le coffre.
Il a perdu sa feuille.
Ouais, j'ai perdu la feuille. Vous avez 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 732-16.
Bah, tu vois, t'as pas besoin de feuille.
C'est vrai. Coffre au 7. Non, mais je suis comme un trapéziste. J'ai besoin de mon filet, même si je tomberai jamais. Coffre par SMS au 732-16.
Et il y a quoi à gagner?
Vous avez 5 minutes, 50 000 euros.
Où?
Ou 6 jours.
Ouais,
ou non, une semaine dans un camping Tikayan. Pour 6 personnes
le nom
en
du
France.
Tikayan. Ah oui,
ça fait une semaine qu'on va l'annoncer tous les soirs. 5 minutes pour jouer. Et je peux même t'ajouter que le vainqueur sera dans l'émission demain soir. Bonne chance à tous dans un
ça
instant.
Ça fait une semaine qu'on peut s'inscrire pour gagner les 50 000.
Absolument. L'after revient avec
Stéphane Guy a été joué, mais il n'a pas gagné.
Ouais.
J'ai l'impression d'avoir ces infos.
J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette émission. Allez, l'avis de Stéphane justement sur les JO dans un instant. Yoann Le Maire avec nous pour cette journée de lutte contre les discriminations, contre l'homophobie, avec beaucoup de changements cette année. Souvenez-vous des polémiques. On en parle avec vous tous au 32-16 si vous le voulez. À tout de suite.